Un ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Je rappelle brièvement que nous sommes à Colosse, dans l'actuelle Turquie, en compagnie d'une jeune église fondée dans les années 50 de notre ère, aux alentours de l'an 55. Et nous avons remarqué hier que, quelques années plus tard, sans doute durant l'été 62, cette église reçoit une lettre de la part de l'apôtre Paul, emprisonné à Rome, et qui a appris par Épaphras, très certainement son principal conducteur, venu jusqu'à Rome, partager la captivité de Paul, que cette église vit des moments difficiles. Elle est en danger de se laisser séduire par les discours subtils de prédicateurs itinérants. Et dans cette lettre que l'apôtre Paul envoie à l'église de Colosse, nous trouvons quatre mises en garde énergiques contre les diverses facettes de cette grave déviation qui se manifeste dans l'église et qui est introduite à quatre reprises pratiquement par la même expression. Nous l'avons relu à deux reprises, Colossiens 2.4, je dis cela, « afin que personne ». Verset 8, « prenez garde que personne ». Verset 16, « que personne donc ne vous juge ». Verset 18, « que personne sous une apparence d'humilité », etc. Quatre mises en garde énergiques, pratiquement indissociables. Et hier soir, nous nous sommes arrêtés sur la première des mises en garde. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Nous nous sommes arrêtés à la nécessité fondamentale de ne pas nous fier aux apparences pour et d'être bien équipés pour pouvoir discerner les discours séduisants. Nous avons conclu en évoquant la nécessité d'être imprégné, je dirais pratiquement saturé, dans le bon sens du terme, des Écritures. Qu'elles demeurent pleinement en nous, dans toute leur richesse. Que nous soyons étroitement unis à la personne de Jésus-Christ et que nous ne fassions pas l'économie de l'Église locale. J'aimerais, avant que nous nous attardions ensemble sur le verset 8, faire quand même encore une remarque qui me semble indispensable lorsqu'on évoque les discours séduisant. Un des dangers de certains discours séduisants, c'est qu'ils remuent les sentiments, c'est qu'ils chatouillent ce monde très, très particulier, très riche aussi des émotions. Et il importe que nous soyons bien au clair sur une vérité, je ne vais pas m'y attarder pour ne pas perdre du temps par rapport à la suite, mais il importe que nous réalisions que notre vie de disciple du Christ ne doit pas être fondée sur les sentiments, les impressions, les émotions, tout seul. Je ne veux pas dire que nous devions vivre dans une méfiance maladive de ce beau cadeau que le Seigneur nous a accordé. Ça, c'est toujours le problème du déséquilibre. Nous avons parfois tellement peur à cause des dérapages sévères que nous constatons ailleurs, dans le domaine émotionnel, que nous risquons de verser, nous, dans une orthodoxie froide, morte, de vivre au niveau du cimetière, n'est-ce pas, simplement une pathologie, d'être l'Institut médico-légal de Paris ou je ne sais quoi encore, n'est-ce pas. Il faut faire attention dans ce domaine. Dieu nous a magnifiquement équipés. Et le monde des sentiments, le monde des émotions a sa valeur. Nous bénissons son Dieu pour cela. Mais nous risquons de dévier lorsque nous tenons ce genre de discours. Ce qu'il a dit m'a remué. Donc, cela ne peut venir que de Dieu. Cela ne peut venir que du Saint-Esprit. Vous savez, le cœur de l'homme peut être comparé à une, disons, à une harpe. Avec ses cordes, et dans ses cordes, il y a les cordes des sentiments et des émotions. Et il y a plusieurs joueurs, il y a plusieurs musiciens qui sont capables de jouer de cette harpe, de pincer les cordes. C'est vrai, le Saint-Esprit le fait, mais le diable est aussi un expert en la matière. Et puis il y a en nous des mécanismes profonds, de type psychologique, qui joue aussi dans ce domaine. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que quelle que soit la musique, quel que soit l'instrumentaliste, le résultat a des points communs nombreux. C'est-à-dire que si on ne regarde qu'aux sentiments, qu'aux émotions, qu'aux impressions, il est très difficile de faire la part des choses. Je vous donne quelques exemples. Un religieux ou une religieuse qui est prosternée devant une statue, devant une icône, peut vivre des moments de profonde émotion, peut verser des larmes. Est-ce à dire que sa pratique a l'agrément de Dieu? Autre exemple, vous allez voir un film en prenant soin que le Seigneur puisse s'asseoir à vos côtés. Et au bout d'un moment, vous sortez le mouchoir. Et vous pleurez. Jusqu'à ce que vous disiez, mais Maurice, tu es un peu ridicule. Pourquoi est-ce que tu pleures? Tu es bouleversé. Tu es bouleversé pour du toc. C'est-à-dire que tout ce qui se passe est artificiel. Ce sont des comédiens. Des situations qui sont créées de toutes pièces, parfois même avec des décors eux-mêmes tout à fait artificiels. Et vous savez qu'avec le virtuel aujourd'hui, on va très loin en plus dans ce domaine. C'est-à-dire que vous avez versé d'abondantes larmes, vous avez été complètement bouleversé à cause de quelque chose qui a été fabriqué de toutes pièces qui ne correspond absolument pas à la réalité. On pourrait parler des spirites, des gourous et de tant d'autres mouvements. Les chrétiens de l'église de Corinthe, les membres de l'église de Corinthe, faisaient des expériences émotionnelles époustouflantes. Manifestement, la première aux Corinthiens respire cela. Et pourtant, certains d'entre eux vivaient en même temps dans l'immoralité. Et vous savez que chaque année, on découvre, et c'est à la grande honte du corps de Christ, dans son témoignage, que des prédicateurs, des serviteurs de Dieu, des pasteurs, des responsables, ont exercé un ministère dans lequel ce ministère a provoqué bien des émotions, alors qu'au même moment, ils vivaient déjà dans l'adultère, où ils entretenaient d'autres formes de culpabilité honteuse extrêmement graves. Je dis cela avec le langage tout à fait humain. Et pourtant, cela n'empêche que, lorsqu'ils s'exprimaient, lorsqu'ils exerçaient leur ministère, des mouchoirs sortaient. Et qu'on disait, il a bien parlé. D'où la nécessité de faire extrêmement attention, parce que le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit Saint, c'est Dieu le Saint-Esprit, qui ne conduit pas dans l'immoralité. La partition du Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Il a participé pleinement à sa rédaction. Il en est le grand interprète, celui qui la décrypte, pour que nous puissions comprendre le langage de Dieu convenablement, qui d'ailleurs travaille en nous de manière à nous placer dans une attitude de cœur qui permette cette perception de la pensée de Dieu qui nous dépasse infiniment. Alors nous devons nous souvenir que nos émotions doivent toujours être en accord avec la parole de Dieu. C'est, si vous voulez, le fondement de nos émotions qui est important. Dieu ne doit pas simplement être aimé avec les sentiments, il doit être aimé avec toutes nos facultés, l'intellect, la volonté, ce qu'on appelle dans les Écritures le cœur, qui n'est pas simplement cette dimension émotionnelle de l'individu, parce qu'on utilise le mot cœur dans ce sens, hein, le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas, mais ça c'est pas du tout le sens biblique. Ce terme cœur qui figure pratiquement 1000 fois dans les Écritures signifie le quartier général de notre individualité, c'est le tréfonds de ma personnalité. C'est là que se prennent toutes les décisions importantes. C'est le monde de nos pensées, notre volonté, notre intelligence, notre raisonnement. Et simplement, dans ce paquet figurent les émotions. Mais ce ne sont pas les émotions qui sont prédominantes au niveau du cœur. Donc je dois aimer Dieu de tout mon cœur, disent les Écritures. Et le texte hébreu dit pratiquement, aimer Dieu avec deux cœurs. Il y a une espèce de redondance, n'est-ce pas, une formule pour en faire un superlatif. J'aime Dieu de mes deux cœurs. N'accordons donc pas une confiance aveugle et exagérée à nos émotions. N'isolons jamais nos émotions de notre intellect et de la parole de Dieu. Nous devons toujours vérifier si ce qui a provoqué notre émotion est en accord avec la parole de Dieu. Et si l'origine est impure, il y a danger. S'il y a accord, alors je bénis Dieu pour cette faveur qu'il me fait de toucher mon cœur au niveau, alors, de mes émotions. C'était tout le problème des Corinthiens, n'est-ce pas, l'influence d'une conception païenne de la spiritualité. Les Corinthiens étaient, par exemple, influencés par Platon. Parce que Platon, je vous cite Platon lui-même, hein, Platon qui écrivait ceci, c'est par la folie. Et quand il parlait de folie, il voulait dire l'exaltation due à l'inspiration. C'est par la folie que nous arrivent les plus grands biens. Aucune personne en possession de son intelligence n'est atteinte de l'exaltation divine et véritable. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment être saisi par Dieu, devenir un émissaire de Dieu, vous devez déconnecter à quelque part. Et ça, c'était des idées qui étaient entrées dans les églises de l'époque et dans l'église de Corinthe en particulier, et nous l'avons dit hier, au niveau des dons spirituels, le spectaculaire, l'émouvant, était plus spirituel et valable que la connaissance, que le discernement, que la sagesse, qui font appel à l'intelligence, à la réflexion. Nous l'avons vu hier, toute l'échelle de valeur des croyants de l'église de Corinthe était complètement faussée. Donc on ne mesure pas le degré de spiritualité à l'amplitude de l'émotion provoquée par le discours. D'ailleurs, vous savez, je vous le dis entre nous, si j'avais en tant qu'enseignant de la parole de Dieu cette échelle de valeur-là dans ma propre vie, je serais le plus malheureux des prédicateurs. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que ce n'est pas toujours quand l'auditoire vibre le plus que le Seigneur est forcément en train de travailler le plus. Et combien de fois, au fil des années, si j'avais pris pour point de repère ce que je ressentais dans la communication de la parole de Dieu, j'aurais dit c'est raté. Parce qu'un prédicateur, vous savez, c'est comme un sportif, il n'est pas toujours en forme. Il doit apprendre en permanence à s'appuyer sur le Seigneur. Alors il y a des moments où ça court tout seul. Et où il est tenté de se dire... J'ai une de ces libertés. Ça veut dire que Dieu est en train de faire des grandes choses. Et précisément là, peut-être que Dieu travaille, c'est souhaitable même, mais en tout cas, il se trouve qu'il n'y verra goutte. Alors qu'à d'autres moments, il va quitter une série de réunions se disant que ça a été difficile. Il a fallu labourer. On a l'impression que tout se déchaînait. On était même soi-même pas en forme. Et puis on apprend, après coup, que ce jour-là, telle personne est venue à la connaissance de Christ, que tel autre a connu le grand carrefour de sa vie pour une nouvelle consécration, etc., etc. On doit apprendre dans la vie chrétienne à avoir de bons points de repère. Et mon bon point de repère, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Je voulais vraiment le souligner, c'est d'une importance capitale. Nous avons évoqué ce livre de la prison à la louange. Écoutez, un petit passage qui vous montre le problème. Chaque jour, partout où j'allais, c'était la même chose. Les gens se livraient à Jésus-Christ. J'aimerais bien savoir. Si selon mon ancienne habitude, je commençais à réfléchir avant de parler, le résultat ne se faisait pas attendre. Immédiatement, je me crispais. Et ni la puissance, ni la présence de Dieu ne coulaient à travers moi. Le principe de m'abandonner et de laisser Dieu agir était valable. Tout ce que j'avais à faire était de m'abandonner, de me détendre dans la présence de Dieu, de laisser ma propre pensée de côté, d'ouvrir la bouche et de proclamer par la foi ce que Dieu me donnait de dire. Un peu plus loin... J'étais délivré de la contrainte de préparer, d'organiser, de rechercher et d'écrire le canevas de mes sermons. Ainsi, j'avais beaucoup plus de temps à consacrer à la prière, à la lecture de la Bible. Vous voyez, et c'est très subtil. Parce que d'un côté, il dit, n'est-ce pas, j'avais plus de temps à consacrer à la prière, à la lecture de la Bible, mais enfin, ça s'arrêtait là. J'ai remarqué dans le service de Dieu que l'inspiration... C'est le résultat de 99% de transpiration. Il faut travailler. Dieu n'est pas d'accord avec les paresseux. Et ce qui me gêne ici, c'est que cet ami se conduit comme un médium. Où est la preuve que c'est bien Dieu qui est derrière tout ça? Quand cet homme, avant... d'être aumônier militaire, à pratiquer l'occultisme. Et qu'on ne constate aucun changement de langage entre la partie dans laquelle il décrit sa recherche et ensuite la partie qui concerne son ministère. Il semble qu'il n'y ait pas de rupture. Et qu'en fait, il retrouve dans sa vie des attitudes qu'il avait lorsqu'il pratiquait l'occultisme. Voyez, le danger, il y a tant d'autres passages, mais je vais vous ai donné une petite illustration. Donc, un mauvais point de repère, les émotions, les sentiments, lorsqu'ils ne sont pas contrôlés, appuyés sur la parole de Dieu. Venons maintenant à ce deuxième danger tel qu'il est indiqué au verset 8. Prenez donc garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Nous allons, dans un premier temps, rapidement, essayer de cerner quelque peu le problème colossien. Il n'est pas facile de déceler de manière très précise, très détaillée, la véritable nature de l'hérésie qui empoisonnait cette église. On peut, en tout cas, en examiner les lignes générales. Il y avait donc des faux docteurs qui prétendaient avoir découvert une sagesse supérieure. Et ils glissaient dans l'oreille de qui voulait l'entendre à Colosse et ailleurs que la doctrine présentée par Paul était trop simple, trop élémentaire, pas assez subtile, pas assez spirituelle, pas assez élevée. Et ils avaient donc une philosophie religieuse. C'est-à-dire, non une révélation. Vous savez, l'évangile est une révélation. Le salut est une révélation. Je suis sauvé aussi parce qu'à un moment donné, je ne pourrais pas simplement avec mon intellect être sauvé. S'il n'y avait de la part de Dieu dans sa grâce, à un moment donné, une révélation à mon cœur. Et d'ailleurs, c'est comme ça tout au long de notre vie chrétienne. Nous pouvons apprendre un tas de choses intellectuellement. Et il arrive un moment où ce que nous connaissons intellectuellement et qui en réalité ne touche pas notre vie en profondeur, subitement, se change en réalité. Et vous avez, je pense, si vous êtes en Christ, fait les uns et les autres cette expérience que telle et telle vérité que vous connaissiez de manière abstraite pendant des années, à un moment donné, choisie de Dieu, dans son plan éternel, dans sa sagesse éternelle et dans sa grâce absolue, devient quelque chose de clair. Un livre des Écritures que vous avez lu 10 fois, 20 fois, 30 fois peut-être, et bon, eh bien, vous l'avez apprécié, mais vous n'en étiez pas amoureux. Et puis un jour, ce livre s'est ouvert d'une manière toute nouvelle, au point que vous avez comme été pris dans un buisson, vous ne réussissiez plus à sortir de ce livre, tellement Dieu se révélait dans un ou l'autre domaine particulier de votre vie. Moi, je me souviens comment Dieu, au détour d'une lecture systématique des Écritures, m'a rencontré d'une manière toute nouvelle au travers du livre d'Osée, qui forme la trame de mon livre de l'amertume à la grâce, en parallèle avec le livre de Ruth. J'ai été bouleversé, j'avais lu ce livre d'Osée je ne sais combien de fois, mais je ne pouvais plus en sortir. Dieu se révélait à moi d'une manière toute nouvelle. Le christianisme est une religion dans le sens de relation, mais lié à une révélation. Il faut que Dieu se révèle à moi. D'ailleurs, l'apôtre Paul insistera pour dire, mais Dieu s'est révélé. Mais bien sûr, cette révélation est en accord avec l'ensemble des Écritures. Alors que les philosophies, ce sont des systèmes de pensée élaborés par l'esprit humain. Et des systèmes de pensée qui se succèdent, qui s'entrechoquent, qui se contredisent. Vous savez que c'est un monde extrêmement compliqué que le monde de la philosophie dans son histoire. Alors, cette philosophie religieuse, ce système de pensée élaboré par l'esprit humain est un amalgame. Un amalgame d'éléments issus du paganisme grec, pour ce qui concerne Colosse, également certains éléments venant d'Orient. Vous voyez que c'est pas nouveau, hein, l'Orient joue un rôle énorme aujourd'hui. Et déjà à cette époque, l'Orient avait un rôle à jouer. Il y avait dans cet amalgame des éléments du judaïsme et des éléments du christianisme. C'était un mélange, ce qu'on appelle un syncrétisme, un mélange d'éléments des grands courants religieux du bassin méditerranéen. Je le répète, un mouvement religieux en apparence plus spirituel, mais surtout plus crédible pour les hommes. Parce qu'il flatte l'orgueil humain. Ça, c'est la raison du succès de bon nombre de sectes. Tout ce qui flatte l'ego, le moi, l'hippopotame moi, comme disait la maréchale Bousse, hein, tout ce qui flatte l'orgueil humain a du succès. Et il y a là des traditions humaines qui s'ajoutent, des croyances aux divinités païennes, aux forces occultes, toutes les croyances qui étaient courantes, en vogue, à l'époque, dans le bassin méditerranéen. Et là, l'idée forte, c'est qu'on ne peut être sauvé que par la connaissance. Alors, vous vous souvenez, hier, pour ceux qui étaient là, nous avons parlé de la connaissance, de l'épignose, de cette connaissance qui est relation intime avec le Seigneur, qui est partage avec lui, qui est don de sa vie à Christ. Je dirais que Dieu se donne à ceux qui se donnent, n'est-ce pas? Mais il existe une gnose, il existait à cette époque en tout cas une gnose, qui au moment où l'épître aux Colossiens est rédigée, n'est pas encore une gnose totalement structurée, c'est-à-dire un salut par des connaissances secrètes, nous allons voir ce que cela signifie, mais qui est en train de s'élaborer peu à peu et qui va devenir ce qu'on appelle le gnosticisme, un mouvement qui a véritablement fait trembler l'Église au IIe et au IIIe siècle. Et certains des grands docteurs de l'Église de Jésus-Christ dans les premiers siècles, notamment au deuxième siècle, comme Irénée, ont pris leurs plumes et ont dû écrire pour dénoncer ces déviations qui étaient en train de démarrer là, aux alentours de l'année 60, quand l'apôtre Paul écrivait aux Colossiens. Nous sommes donc dans une sorte de pré-gnosticisme, mélange d'éléments de la Grèce, de Perse, d'Égypte, des Indes, avec le christianisme et le judaïsme. Voilà une idée générale. Oh, vous savez, si vous ne retenez pas tout ça, c'est pas le plus important. Mais c'est quand même intéressant de savoir à quel type de problème cette Église devait faire face. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle le Nouvel Âge est en fait un néo-gnosticisme. Et beaucoup d'éléments qui existaient à cette époque se retrouvent aujourd'hui. Parce que le diable, vous savez, il n'invente rien. Il ne fait que se répéter tout au long de l'histoire. Donc il est important que nous connaissions ces choses, tant soit peu, parce qu'elles vont nous aider à discerner les subtilités du Nouvel Âge lorsqu'il intègre le christianisme. Parce que vous savez qu'actuellement, il y a tout un pan du Nouvel Âge qui intègre le christianisme, qui ne dit pas que le christianisme est mauvais, mais qui fait du christianisme simplement une composante d'un ensemble, de tout un système qui est encore assez confus, mais qui est en train de s'ordonner peu à peu, en mettant donc le christianisme à un point plus ou moins d'égalité avec d'autres tendances. Alors comment maintenant allons-nous faire pour analyser plus en détail cette philosophie et pour voir comment l'apôtre Paul y répond? Nous allons partir de mots-clés de mots importants qui figurent dans l'épître aux Colossiens et que l'apôtre Paul utilise. Et ces mots-clés qu'utilise Paul dans Colossiens ont ceci de particulier, c'est qu'ils sont aussi utilisés par les faux docteurs. Si vous voulez, l'apôtre Paul reprend le vocabulaire des faux docteurs et il va donner à ce vocabulaire un autre contenu. Et vous verrez que cet après-midi, nous allons pouvoir en tirer des conclusions toutes pratiques, très intéressantes, pour notre approche personnelle et ecclésiale d'un certain vocabulaire religieux, théologique, même à l'œuvre dans le mouvement évangélique. Mais nous n'en sommes pas encore là. Donc, il y avait un certain nombre de mots qui faisaient partie de la communication de ces faux docteurs, qui troublaient, ce vocabulaire troublait les croyants de l'église de Colosse. L'apôtre Paul reprend ces mots et dit non, vous vous trompez. Ces mots, les faux docteurs leur donnent ce contenu, voilà le contenu qu'il faut leur donner si vous voulez être en accord avec la pensée de Dieu. Alors on va prendre simplement un certain nombre de ces mots et là, nous allons nous servir d'un document qui peut être maintenant distribué, ça ne vous aura pas perturbé de l'avoir trop tôt, d'autant plus qu'il apparaît un petit peu complexe, mais vous verrez qu'il est très simple. Vous allez recevoir une sorte d'échelle, peut-être qu'on peut même diviser le paquet en deux, ça ira encore plus vite. Voilà, pour l'autre L. Alors ne vous affolez pas, ne vous inquiétez pas. Mais ce support que vous pourrez conserver, je vous demande simplement d'avoir la gentillesse de le ramener cet après-midi, ce support va beaucoup nous aider. Le premier mot que nous allons étudier se trouve dans le chapitre 1er et au verset 19. Colossiens chapitre 1er, verset 19. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui, en Christ. Toute plénitude. Ce mot revient au chapitre 2 et au verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et puis vous avez ailleurs, ici et là, d'autres mots, ce n'est pas le même mot, mais d'autres mots sur lesquels l'apôtre Paul insiste beaucoup et qui tournent autour aussi de cette idée de plénitude. Il annonce pleinement, etc., etc. Plénitude. Le mot plénitude, c'est le mot que vous avez tout en haut sur votre feuille. Le plérôme. C'est un mot grec qui figure dans le texte, pléroma en grec. Je l'ai simplement francisé, j'aurais pu aussi le laisser tel quel. Le plérôme. Dieu a voulu faire habiter tout plérôme en lui. Qu'est-ce que c'est que le plérôme? Alors le mot était tout à fait courant dans le vocabulaire de cette époque. Pour parler de choses tout à fait banales, ce qui remplit ou complète. Par exemple, le contenu d'un bol, d'une coupe, le chargement ou l'équipage d'un navire, les restes de pain et de poisson qui ont rempli les paniers lors de la multiplication des pains sont appelés les plérômes. Le plérôme, c'est la pièce de drap neuf que l'on coud sur un vieux vêtement pour combler le trou ou la déchirure. Etc., etc. Donc, vous voyez qu'on utilisait ce mot dans le langage tout à fait courant. Mais, ce mot avait un sens particulier chez ces faux docteurs. Et certains d'entre eux disaient que le plérôme, c'est une sorte d'abîme de lumière divine, d'où émanent des forces qui se personnifient un temps en certains êtres, pour retourner ensuite dans l'abîme de la divinité. Donc, un abîme de lumière divine. Vous voyez, j'ai mis une espèce de nuage, un abîme de lumière divine. Très, très difficile à discerner, à en dessiner le contour. Et de cet abîme sortent des forces. Et ces forces se personnifient, deviennent des personnes. Et puis quand elles ont accompli certaines choses, elles remontent là-haut et elles fusionnent à nouveau avec cet abîme de lumière divine. D'autres disaient encore, c'est un commentaire, la somme des forces contrôlant le destin des gens. Donc, une sorte de nom abstrait du Dieu absolu, d'un Dieu impersonnel, qui ne peut avoir aucun contact avec la terre mauvaise. Ça, c'était une des particularités. Tout simplement parce que là, on retrouvait une idée de Platon. Hein, le bien est identifié à l'esprit, le mal est identifié à la matière. Tout ce qui est matière est mauvais, donc le corps est mauvais. Et c'est une des raisons pour lesquelles vous avez en bas un autre grand mot grec, kénoma. Et le kénoma vient d'un verbe qui veut dire vider, être vide, être creux, n'est-ce pas? Le kénoma, c'est la vacuité, c'est le vide. Donc, l'absence de spiritualité. Alors, voyez, vous avez la terre, et c'est normal, la terre est de matière. Les hommes sont de matière, donc tout ça, c'est le vide, c'est le néant. Et le grand problème, c'est que l'homme, ça c'était une fortité de Platon, l'homme est enfermé dans son corps de matière, c'est une prison la matière, et il y a en lui des étincelles spirituelles, si vous voulez, qui doivent sortir à quelque part de cette prison de la matière pour monter et un jour pouvoir fusionner avec cet abîme de lumière divine. Vous savez, ce que nous disons est beaucoup plus important qu'il y paraît, parce que, hélas, cette conception est entrée dans le christianisme. Lorsque, par exemple, on a eu une tendance extrêmement forte à mépriser la sexualité, lorsqu'on a eu une tendance tellement forte dans le passé à avoir une honte de son corps, c'était très souvent lié à une conception platonicienne de l'Évangile. Moi, j'ai eu un professeur dans mes études, non pas ensuite à l'Institut biblique, mais dans des études préparatoires de théologie protestante à Lyon, j'ai eu un professeur de lettres qui nous disait, vous savez, l'apôtre Paul était un platonicien. C'est-à-dire donc que l'apôtre Paul avait cette conception d'un corps mauvais, puis un esprit qui était bon dedans, le corps enfermait l'esprit, et il fallait bien faire quelque chose pour libérer tout ça. Et toute notre mauvaise perception du corps vient de ce que bien des idées philosophiques grecques sont entrées dans notre christianisme lorsqu'il n'est pas resté près des Écritures. Alors je bénis Dieu parce que David n'était pas platonicien dans ce domaine. Hein. Je te loue, Seigneur, parce que tu as fait de moi une créature merveilleuse. Hein. Le corps, il y a des passages extraordinaires dans le psaume 139 et ailleurs, n'est-ce pas? Voyez donc qu'on touche à bien des questions très importantes à l'heure actuelle. Alors disons simplement que Dieu est inaccessible. Dieu est insaisissable. Dieu est une énergie, une force créatrice. Ce que l'on dit très souvent aujourd'hui dans certaines tendances du Nouvel Âge, là encore. Et entre l'homme mauvais, là en bas, et ce plérôme, ce Dieu que nous avons essayé tant bien que mal de situer, eh bien, il y a une échelle. Il y a des êtres spirituels intermédiaires par lesquels il faut passer pour s'élever peu à peu jusqu'à Dieu. On va même jusqu'à dire, dans certains cas, que Dieu étant trop pur, pour avoir affaire à la matière, aurait créé ces intermédiaires, précisément pour que cette échelle puisse exister. Alors je ne vais pas continuer à vous détailler tout cela, parce qu'il y a encore beaucoup d'autres éléments dans cette pensée du gnosticisme, et même du prégnosticisme, mais ce qui est important à voir, c'est que ces intermédiaires qui portent des noms, vous remarquez, trône, souveraineté, principauté, pouvoir, ange, mais il y a aussi Jésus-Christ. il y a aussi Jésus-Christ. Et c'est là, n'est-ce pas, le problème? Christ lui-même serait un de ces êtres spirituels intermédiaires. Oh, les faux docteurs! Donner ce type d'enseignement dans l'église de Colosse. Alors, quelle est la réponse de l'apôtre Paul? Eh bien, l'apôtre Paul répond tout simplement, mais vous savez, Christ n'est pas un des barreaux de l'échelle, comme vous pourriez le penser. Christ est le plérôme lui-même. Il est le plérôme. Dieu a voulu faire habiter tout plérôme en lui. De neuf, en lui habite corporellement tout le plérôme de la divinité. Nous reviendrons d'ailleurs sur ce texte. Il est le Dieu absolu, créateur des univers, du cosmos. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul développe ces versets qui nous ont été lus dans l'introduction du culte ce matin, au chapitre 1er, au verset 15, lorsqu'il est dit « Le Fils et l'image du Dieu invisible. » Le Fils est l'image du Dieu invisible. Le mot image, là aussi, est intéressant. Il y a plusieurs mots dans les Écritures qui, dans le texte original, peuvent être rendus par image. Mais s'il y a un mot tout à fait particulier, c'est le mot qui a donné icône en français. Et ce mot a un sens très spécial. Il signifie une représentation exacte, mais une représentation unique, l'expression même. Jésus-Christ est l'expression même de Dieu. L'expression même. Il n'est pas une copie, si vous voulez. Il y a là un sens extrêmement fort qui va être d'ailleurs développé dans Hébreux chapitre 1er. Au verset 3, Hébreux chapitre 1er, verset 3, le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. On peut traduire ce texte un peu différemment, mais il a le même sens. Il est le rayonnement de sa gloire parce qu'il y a une idée de rayon. Et l'expression de son être, ou encore le resplendissement de sa gloire est littéralement l'empreinte de sa substance. Vous savez, on le dira cet après-midi dans notre conclusion, la Bible est inspirée dans ces mots. C'est pas pour rien que ces expressions figurent de manière si pointue. Il y a une double image ici. Le Fils est un avec le Père comme les rayons de soleil sont un avec le soleil lui-même. Vous ne pouvez pas dissocier l'un de l'autre. Il fait un, n'est-ce pas? Il rayonne la gloire de Dieu. Et puis deuxièmement, vous avez l'image de l'empreinte d'un sceau, hein, il est l'empreinte de sa substance, c'est-à-dire qu'en même temps, il est distinct du Père en tant que personne. Il est à la fois un avec le Père, et en même temps distinct du Père en tant que personne. Jean 1, 18, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Dans un sens, si vous voulez, au point de vue essence, il n'y a aucune distinction à faire entre le Père et le Fils. La seule différence qui existe entre le Père et le Fils, c'est que le Fils rend le Père visible. Il nous permet de, en quelque sorte, en lui, de voir la beauté du Père. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, un commentateur a écrit ceci. Oui, tout comme la parole est fille de la pensée, l'empreinte dans la cire, la fille du sceau, les rayons, les fils du soleil, Jésus est le Fils de Dieu. Il est son égal, sans jamais être indépendant de lui. Il nous révèle le Père d'une manière parfaite et simple que nous pouvons comprendre. Tout ce qu'il est, il l'était non seulement lors de son incarnation, mais déjà avant la création, et il le sera pour toujours. Une petite illustration qui va nous aider à comprendre. Il existe à Rome un palais dans lequel se trouve une fresque très célèbre qui s'intitule L'Aurore. Et cette fresque est peinte sur une voûte très élevée. Et je ne sais pas si vous êtes allé dans la chapelle Sixtine, j'ai visité la chapelle Sixtine il y a un certain nombre d'années, et je me souviens du problème quand il faut lever la tête, et il y a de telles richesses que vous pouvez lever la tête pendant des heures. Puis ça monte très haut, alors vous finissez par vraiment avoir mal au cou, etc. C'est très inconfortable. Alors pour remédier à ce problème, dans cette chapelle, où cette scène, l'aurore, est peinte sur une voûte donc très élevée, quand vous entrez, vous n'allez pas regarder là-haut. Vous allez vous asseoir sur des bancs et vous allez regarder par terre. On a simplement placé un immense miroir de manière à ce que le ciel se reflète au sol. Et chacun peut à loisir contempler, détailler du regard cette splendide fresque. Je crois que c'est une image qui vaut ce qu'elle vaut de ce texte que nous avons lu là dans Colossiens au chapitre 1er, qui nous indique qu'il est, Christ est l'image du Dieu invisible. Alors, l'apôtre Paul continue dans ce domaine en disant il est le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. Bien entendu, non pas au sens littéral. Et c'est là que nous trouvons une déviation qui a fait beaucoup de dégâts dans le monde, celle des témoins de Jéhovah, qui s'appuie notamment sur ce texte, vous le savez certainement, pour dire que Jésus a été créé par Dieu, il en est le fils premier-né au sens de la création. Il est donc un Dieu inférieur à Dieu le Père. C'est un des textes parmi d'autres, mais un des textes fondamentaux sur lesquels s'appuient les témoins de Jéhovah. Alors il faut quand même essayer de trouver là une solution, et elle n'est pas difficile à trouver. Disons tout de suite qu'il n'est pas question donc de sens littéral, il est le premier en dignité, en excellence, en distinction, en suprématie. Alors là, si on reprend l'épître aux Hébreux, puisque la Bible s'explique par la Bible, n'est-ce pas? Alors dans Hébreux, au chapitre 1er, Hébreux, chapitre 1er, nous avons le verset 6, c'est de nouveau lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, vous avez la même expression, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent, de plus il dit des anges, il fait des anges, des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu, mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité, tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, ta voix. Vous voyez combien la divinité de Jésus-Christ sort avec force dans un tel texte. D'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Et encore verset 10. Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Co-auteur, co-créateur. Ils périront, mais tu demeures, tu subsistes, ils vieilliront tous comme un vêtement, tu les rouleras comme un manteau, ils seront changés, mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Il est celui qui existe avant toute chose. Il a la prééminence, la primauté sur toute la création. Alors, nous avons même des preuves linguistiques, simplement. C'est vrai que le mot premier-né veut d'abord dire né le premier dans une famille. Elle enfanta son fils premier-né et le coucha dans une crèche. C'était lui le premier-né. D'où nous disons, parce que la Bible le dit, qu'il y a eu une belle famille dans la relation normale de couple de Marie et Joseph après la naissance miraculeuse de Jésus. Alors nous disons oui, ça a ce sens, mais ça en a un autre, parce que les Écritures le prouvent. Prenons deux exemples rapidement. Vous connaissez les noms des deux fils de Joseph nés en Égypte. Vous les connaissez? Oh, c'est joli. Ce sont de très beaux noms. Manassé et Éphraïm, tribu très importante par la suite, qui a même donné son nom à la totalité des dix tribus du royaume du Nord, n'est-ce pas, Éphraïm. Dans Osée, il en est question continuellement. Alors, je vous pose une question. Qui, entre Éphraïm et Manassé, est l'aîné des deux enfants dans la famille de Joseph et de son épouse? Lequel des deux est l'aîné? Allez chercher dans Genèse 41, versets 51-52. Genèse 41, versets 51-52. Et vous pourrez répondre à cette question. Genèse 41, versets 50 à 52. Il est dit au verset 51, Joseph donna au premier-né le nom de Manassé. Or, si nous allons dans Jérémie 31, verset 9, Jérémie 31, verset 9, il est question d'Israël. Ils viennent en pleurant, je les conduis au milieu de leurs supplications, je les mène vers des torrents d'eau par un chemin uni où ils ne chancellent pas, car je suis un père pour Israël et Manassé est mon premier-né. Non, Éphraïm est mon premier-né. Ça veut dire que manifestement dans ce texte, le mot premier-né n'a pas le même sens. Et c'est sûr qu'il n'a pas le même sens, puisque Éphraïm ici annonce le peuple d'Israël. Pas simplement la tribu d'Éphraïm. Mais le peuple d'Israël, comme dans Osée, 34 fois, simplement dans Osée, n'est-ce pas? Et c'est vrai qu'Israël est appelé en tant que peuple le premier-né de Dieu. C'est-à-dire que c'est à partir d'Israël que les oracles de Dieu vont partir vers le monde, parce que les oracles de Dieu ont été confiés au peuple juif. C'est à partir d'Israël que la lumière de Dieu va pénétrer les nations, etc., n'est-ce pas? Donc, Israël joue un rôle absolument stratégique dans le plan de Dieu. Dieu a choisi de faire passer par Israël une quantité extraordinaire de bénédictions. Et puis, on le sait, ensuite, le Seigneur Jésus viendra en terre d'Israël, au milieu des hommes. Donc, vous voyez, par exemple, ici, un texte où le mot « premier-né » a un autre sens. Prenons maintenant un autre exemple. David. Il est membre d'une grande famille à Bethléem. Quelle est sa position dans la famille? Il est le dernier. Il est le dernier, septième ou huitième peut-être, suivant les textes. Il est le dernier. Or, si nous allons dans le texte du psaume 89, verset 28, psaume 89, verset 28, il est question de David, dans le contexte, et il est dit au verset 28, « Moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. » Et vous remarquez ici, c'est intéressant, vous avez l'explication. Hein? Le premier-né égale le plus élevé des rois de la terre. Non pas celui qui est né le premier, mais celui qui est le plus élevé. Et le plus élevé des rois de la terre, c'est le fils de David. Et en fait, nous avons ici un texte messianique, un texte prophétique qui annonce le règne de celui qui est à la fois fils de David, par sa venue au milieu des hommes, et seigneur de David, comme le disent aussi les Écritures. Voyez donc deux passages dans lesquels ce mot, cette expression « premier-né » a tantôt un sens tout à fait littéral au premier degré, tantôt un sens figuré de prééminence, de primauté. Donc, j'en arrive à ma conclusion pour ce matin, c'est que Christ ne doit pas être seulement proéminent. Vous connaissez l'expression avoir un ventre proéminent. C'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir simplement une place importante. Il doit avoir la première place. Il doit avoir toute la place. Il doit être prééminent. Et moi, je suis frappé par une chose quand je compare l'épître aux Colossiens à l'épître aux Éphésiens. Je vous l'ai dit hier, les deux ont été écrites dans le même jet de plume. Plus de 40 points communs entre les deux épîtres. Or, si dans l'épître aux Éphésiens, il est question une dizaine de fois du Saint-Esprit, curieusement, dans l'épître aux Colossiens, il n'en est question qu'une fois. Comme si, à cause de la situation de Colosse, l'apôtre Paul ne voulait pas évoquer le Saint-Esprit de manière à ce qu'on ne le place pas, lui, en plus, à un niveau de l'échelle et que ça ne crée pas encore plus de confusion. Prééminence absolue de la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ, Seigneur, et j'étais tellement heureux que ceci soit souligné dans notre introduction. Vous remarquez que nous n'avons fait que reprendre en fait ce qu'a fait notre frère, pour l'examiner sous un angle peut-être plus technique, à la lumière d'un arrière-plan, mais j'aimerais vraiment terminer sur cette note spirituelle importante. Christ est-il Seigneur? Christ a-t-il la prééminence? Ou bien est-ce que, même si je n'accepte pas cette échelle, dans la réalité, cette échelle, elle est là quand même. Vous comprenez? On peut très bien dire, oui, je ne suis pas d'accord, je ne veux pas de cette échelle. Mais dans la réalité, où se situe Christ dans l'ordre de priorité de nos vies pratiques? Est-ce qu'il a le plérôme? Est-ce qu'en lui habite véritablement, pour nous personnellement, la plénitude de la divinité? Est-ce que nous acceptons dans nos vies d'en tirer les conclusions qui s'imposent? Savez-vous combien de fois Jésus porte le titre de sauveur dans le Nouveau Testament? Jésus veut dire il sauve, mais Jésus porte le titre de sauveur dans le Nouveau Testament. Savez-vous combien de fois il porte ce titre? 16 fois. 16 fois. Et si je vous pose cette question, parce que je vous en pose immédiatement une autre, savez-vous combien de fois Jésus est appelé Seigneur dans le Nouveau Testament? Plus de 470 fois. Ouais. C'est pas pour rien. D'ailleurs, on peut aller plus loin, puisque j'ai compté dans le Nouveau Testament plus de 700, je vais être prudent, plus de 700 mentions, près de 725 mentions du terme kurios, traduit par Seigneur, appliqué à Dieu le Père, près de 150 fois, appliqué à Dieu le Fils, plus de 470 fois donc, et appliqué à l'un ou à l'autre, parce qu'on ne peut pas toujours déterminer si c'est l'un ou c'est l'autre, en tout cas au moins une bonne cinquantaine de fois, c'est-à-dire qu'on tourne autour de 660 mentions. Alors pour nous, le temps des seigneurs, c'est loin. Hein? Mais pour les lecteurs de cette épître, le mot seigneur avait des connotations douloureuses. Quand un soldat qui gardait l'apôtre Paul dans sa prison à Rome se convertissait à Jésus-Christ, bouleversé par le témoignage de ce vieillard dans les chaînes, et qu'ensuite il était relevé pour rentrer à la caserne, et que dans les rues de Rome, il croisait un autre soldat, ou qu'il croisait un autre fonctionnaire, savez-vous comment ils se saluaient? L'un disait à l'autre, César est Seigneur. Et l'autre répondait, oui, le Seigneur c'est César. Et cela voulait dire qu'il est... C'est devenu progressivement, ça n'a pas toujours été comme ça, mais au temps de l'apôtre Paul, ça devenait très très sérieux dans le domaine de la divinité des Césars. Et ça culminait à la fin du 1er siècle, avec les derniers empereurs, Domitien, Trajan. Domitien était complètement fou dans ce domaine. Il faut voir un petit peu jusqu'où ça allait. Alors, vous vous rendez compte ce qui se passait pour ce soldat quand l'apôtre Paul venait de lui dire, mais tu sais, désormais, tu le sais, ton curios, c'est Jésus. Au moment où de ses lèvres allait s'échapper la formule habituelle de salutation, ah mais non, c'est plus César. Alors vous pouvez imaginer, mais tant et tant de situations, même dans les villages et les villes d'Asie mineure où l'empereur savait tellement qu'il risquait gros au fur et à mesure que l'Empire romain se désagrégeait, n'est-ce pas? Alors il voulait vérifier la loyauté de ses sujets, alors il envoyait des émissaires. Et ces émissaires arrivaient là, dans le village, au centre du village, on ramassait toute la population, on dressait un autel à l'empereur, on plaçait la vasque dans laquelle on allait brûler l'encens, et puis sous le regard de l'autorité qui représentait César et des soldats tout autour, vous avez le village qui défilait et qui devait venir dire ouvertement aux yeux de tous qu'il reconnaissait dans sa vie la seigneurie de César. L'Empire romain était très tolérant. Vous pouviez croire n'importe quoi dans l'Empire romain. À condition de croire à la divinité de l'empereur. Et c'était ça le problème. On était très tolérant. Mais malheur à celui qui disait non, il n'y a qu'un seul Seigneur. Il s'appelle Jésus-Christ. On avait la même tolérance qu'aujourd'hui, vous savez, vous pouvez croire n'importe quoi aujourd'hui. Mais si jamais vous avez le malheur de dire « lui il a tort et Dieu a raison », alors c'est le règne de l'intolérance. Alors essayons de réfléchir à ce que cela doit signifier dans notre vie à chacun. Vous savez, des milliers de croyants ont jalonné les voies romaines, crucifiées, à cause de la seigneurie de Christ. Si nous avions le temps, je ne vais pas le faire, nous terminons là, mais je vous raconterai le martyre de Polycarpe dans les années 160. Et Polycarpe, âgé de plus de 86 ans, a été brûlé vif sur un bûcher après un interrogatoire que j'évoque dans un de mes livres, tout simplement parce qu'il ne voulait pas dire que César était Seigneur. Et on a des textes bouleversants. Et cet homme de Dieu, Polycarpe, a écrit d'ailleurs une épître, qu'on appelle l'épître philippienne, qui n'est pas bien sûr l'épître aux Philippiens, mais c'est une épître qui a une grande valeur parce qu'elle est centrée sur la seigneurie de Jésus-Christ. Et à cause de cela, cet homme de Dieu a fini sur le bûcher. Et son témoignage a été tellement bouleversant, tellement extraordinaire, que c'est ce qui a arrêté la persécution dans cette région. À partir de là, on a arrêté la persécution parce que le peuple s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui clochait, ça allait vraiment trop loin. Le témoignage de Polycarpe était tellement beau. Alors quand nous chantons, quand nous proclamons Jésus-Christ est Seigneur, essayons de replacer tout cela dans son contexte. Parce que cela nous aidera à réaliser que nous vivons des temps où sous peu, nous pourrions fort bien, dans la marginalisation des véritables enfants de Dieu qui se fait de plus en plus clair, nous pourrions fort bien avoir à vivre des moments très difficiles dans ce domaine. Nous devons nous y préparer. Et il importe que nous ayons donc une vision très nette, à la fois intellectuelle et pratique, morale, dans le quotidien de nos comportements, de ce que signifie la seigneurie de Jésus-Christ dans ma vie. Il n'est pas proéminent, il veut être prééminent. Il a la dignité absolue, il doit l'avoir dans ma vie personnelle, dans nos églises également. Nous voulons prier. Seigneur, merci parce que nous avons eu le privilège, durant cette matinée, de pouvoir exalter ton Fils. Ton Fils bien-aimé. Et chaque fois que ton Fils unique et bien-aimé est exalté, ton cœur de Père en est réjoui. Seigneur, nous te demandons de travailler dans nos vies, je te demande de travailler dans ma vie. Tu sais avec quelle facilité nous proclamons certaines vérités. Et tu sais parfois quel divorce il y a entre nos paroles et le quotidien de nos vies et de nos comportements. Merci, Père, pour ce plérôme, cette plénitude absolue de la divinité qui est en Jésus-Christ. Merci pour sa dignité, merci pour sa supériorité absolue, merci pour sa prééminence. Seigneur, qu'il soit Seigneur en moi. Scelle toi-même ce message par le travail du Saint-Esprit dans nos cœurs. Renouvelle-nous selon nos besoins que tu connais. Prépare-nous à cet après-midi, à cette dernière étude, et vraiment réjouis nos cœurs intensément dans ta présence, en te contemplant dans ta beauté. Merci. Merci pour ton Fils bien-aimé. Merci pour tout ce que nous apprenons de ta personne par lui. Et merci pour le ministère du Saint-Esprit qui éclaire si merveilleusement le Père et le Fils dans chacune de nos vies. Nous te louons et t'adorons. En son nom. Amen.